Et je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Hébreux chapitre 12. C'est la troisième fois que nous sommes sur ce chapitre. C'est un chapitre vraiment merveilleux, plus merveilleux que je l'aurais pensé, et plus solennel même que je l'aurais pensé. La parole de Dieu est comme ça. Vous avez lu ça 100 fois. Mais elle est vivante. La parole est vivante. Et quand nous lisons la parole, Dieu parle. Il n'a pas parlé, ou il a parlé, mais il parle. Et donc, il nous parle à travers ce chapitre qui est, comme nous avons vu la semaine dernière, nous avons regardé il y a deux semaines, j'avais même marqué ici, il y a deux semaines, on a pris verset 1 et verset 2 qui suivaient chapitre 11. Chapitre 11 qui est le chapitre des gens qui ont traversé la discipline du Seigneur, les châtiments du Seigneur, l'éducation du Seigneur, la formation du Seigneur, pas la punition du Seigneur, comme nous avons appris ici. Ici, c'est une chose entièrement différente qu'un Dieu qui règle les comptes de ceux qui ont fait du mal pour qu'ils reçoivent une punition en égalité de leur offense. Ça n'a rien à faire. Il n'y a qu'une punition qui est en égalité de l'offense de l'humanité, et ça c'est l'enfer. Ce que Christ lui-même a souffert d'une manière extraordinaire sur la croix du calvaire. Mais les personnes, même que nous avons vu en chapitre 11, verset 35, et je mentionne ça parce que l'apôtre termine avec cette longue liste de gens, il termine par des gens qui ont vraiment souffert des choses absolument horribles, et il termine par dire ils ont été protégés, gardés en traversant le châtiment. Ça sonne mal, même le discipline, ça sonne aussi mal, mais la correction, ça sonne un peu mieux, la formation, ça sonne encore bien mieux. L'éducation, qui est le sens de ce passage. Donc, dans ces deux versets, trois directions à voir. Regardez en arrière aux gens qui nous applaudissent et qui disent « Allez-y jusqu'au bout, c'est comme un concours où vous allez traverser des choses très dures. » On a chanté tout à l'heure que la vie est belle avec ceux qui marchent avec Dieu. Oui, mais la vie est dure. La vie est dure, mais la vie est belle. La vie est belle, mais elle est dure. Et la Bible enseigne ça. Et dans le passé, regardez aux témoins. Mais regardez aussi à Jésus. Parce que Jésus est allé en avance. Il a traversé le même chemin que nous pour qu'il devienne le chef et le consommateur de notre foi. Et puis regardez comme lui, vers la joie qui est devant nous. Et ça, c'est ce que le chrétien regarde. Il est un pèlerin ici, et il le sait. Et donc, la semaine dernière, c'était... Nous avons vu, à partir du verset 3, et jusqu'à... je n'ai pas noté le passage, mais jusqu'à verset 11, 3 à 11, que la souffrance est inévitable. Non simplement est-ce qu'il est inévitable, il est indispensable. Il y a beaucoup de gens qui prêchent le contraire aujourd'hui, sous couvert d'évangélisme, évangélique. Mais la Bible dit que le chrétien est ici sur terre pour qu'il soit raffiné à travers la souffrance. La souffrance de chrétien n'est pas une simple conséquence de ses péchés. Oh là là, je souffre ça, je suis malade, qu'est-ce que le péché que j'ai commis hier que maintenant je souffre par un malaise aujourd'hui. Non, ce n'est jamais ça pour le chrétien. C'est tout au contraire, c'est une éducation, c'est une formation, c'est une purification. On a vu dans ce passage la souffrance inévitable. La souffrance de Jésus était nécessaire pour notre justification et la souffrance du chrétien est indispensable pour sa sanctification. Ce que nous avons vu un peu et après, le résumé de tout cela, c'est ce que nous avons vu à travers versets 3 jusqu'à 11, c'était que un père plein d'amour agit de la sorte pour que nous puissions comprendre non simplement est-ce que Dieu vient au secours de nos besoins, mais c'est Dieu qui a choisi. Pas simplement qu'il arrive comme le Superman qui règle tout à la fin d'une impossibilité, mais d'une personne qui a précisé cette impossibilité bien avant pour que ça se passe chez vous, afin que vous traversiez et que vous grandissiez et que vous connaissiez. Et donc, le passage d'aujourd'hui, et j'ajoute ça, comme résumé de tout ce que nous avons lu, puisque l'amour paternel de Dieu a conçu votre douleur. Important qu'on comprenne ça. C'est l'enseignement de ce passage. Ce n'est pas mes idées. C'est ce que ce passage enseigne. Dieu a conçu votre douleur pour votre bien et votre sainteté. Et donc, verset 12, où on reprend, fortifie donc. Donc le mot donc veut dire, il y avait quelque chose en avant. En fin de compte, versets 1 et 2, c'est le pain avec versets 13 à 17, qui est le deuxième pain. Entre les deux, il y a un sandwich de merveilleuses choses, ce qui était la chose la semaine dernière. Maintenant, on a vu le premier. Et puis, on a vu les bonnes choses que Christ nous a fait. Et maintenant, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds les... Donc, puisque l'amour paternel de Dieu a conçu la douleur pour votre bien. Donc, suivez avec vos pieds des voies droites afin que le boiteux ne dévie pas, mais qu'il se raffermisse. Puisque l'amour paternel de Dieu a conçu votre douleur pour votre bien et de votre sainteté, recherchez la paix, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puisque l'amour éternel de Dieu a conçu votre douleur pour votre bien et votre sainteté, donc veillez à ne se priver pas de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs soient infectés. Ça, c'était ce que ce passage était en train de voir. Et j'aimerais bien que nous voyions juste rapidement, verset 16 aussi, puisque l'amour paternel de Dieu a conçu votre douleur pour votre bien, donc ne soyez pas comme Ésaü. Le plus solennel passage de verset de tout ce passage, qui pour un mets, un boule de céréales, a vendu son droit d'aînesse, et verset 17, sans pouvoir se repentir. Rapidement, une révision. Verset 1er, vu ce longue liste de témoins qui ont traversé la vie sous la formation d'un Père tendre, Père céleste. Vous, il est dit, supportez... attendez, verset 1er, je trouve ma place ici. Voilà. Ayons-nous les regards sur Jésus, parce que nous sommes environnés Non, ça c'est verset 2. Nous sommes environnés, nous devons rejeter trois choses, on a vu ça, ou deux choses. Rejeter le fardeau, pas le péché, mais les choses qui nous encombrent, parce que ça ne concerne pas le concours que nous sommes en train de faire. Et rejetons tout péché et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Et puis verset 2, Jésus. Cinq merveilleuses choses à apprendre de Jésus-Christ. Considérez, nous avons les regards vers Jésus. Jésus qui a fait quoi? Il a souffert énormément, une croix même. Il a méprisé l'ignominie. Et je crois que j'avais souligné le fait que la croix était physique, une douleur absolument, impensablement horrible. Mais aussi psychiquement, il a souffert l'ignominie, la honte de tous ceux qui étaient contre lui. Et puis, il a fait ça parce qu'il voyait d'avance. Il avait les yeux fixés. Il n'y a que le chrétien qui peut comprendre la souffrance, que le monde ne comprend rien. Parce que le monde n'a pas cette troisième dimension. Il regarde en avant, sachant que ce qui m'arrive est nécessaire pour ce qui va arriver. Donc Jésus savait ça. Jésus vivait 33 ans, souffrant l'ignominie et souffrant les choses contre l'hostilité des pécheurs. Et Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu. Et c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Il est le chef de notre foi. Il a traversé tout ça comme nous devons traverser ce qu'il avait choisi pour nous. Et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et puis verset 3, considérez deux choses dans ce verset. Jésus a supporté cette hostilité de la part de pécheurs. Et considérez que vous, donc, ne vous lassiez pas, que votre âme ne soit pas découragée, parce que Jésus est sur le chemin avec vous. Ça sera une bonne place de poser la question. Est-ce que vous aimeriez avoir un chemin paisible, sans affliction, sans douleur, sans Jésus, ou un chemin très dur, très rocailleux, très difficile, avec Jésus, qui est souverain et qui promet que absolument rien ne se passerait dans votre vie. Vous êtes intouchable et invulnérable, à moins que lui-même prescrit comme votre chirurgien qui connaît bien l'intérieur de tout votre être, la nécessité que vous avez pour votre propre santé et finalement sainteté, comme il le dit. Verset 4, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais verset 4 dit deux choses. Il dit, vous êtes en combat contre le péché. Est-ce que vous voyez ça dedans? Le combat dont nous parlons est un combat contre le péché et vous êtes dedans et vous avez lutté. Mais vous n'avez pas lutté comme d'autres. C'est-à-dire, chapitre 11, verset 35, si vous regardez juste une page en arrière, comme nous avons vu, et je crois que ça sera utile de le relire encore une fois, milieu du verset. Oui, c'est vrai que beaucoup ont gagné plein de choses par la foi, mais c'est aussi vrai que beaucoup ont été appelés juste à endurer des tourments, de n'accepter pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, verset 36 de chapitre 11. D'autres subirent des moqueries, la fouée, les chaînes de prison, lapidation, sciés, torturé, mouru par l'épée, persécuté, maltraité, dénué de tout, Ça ne me semble pas comme un évangile de prospérité, ce qui est souvent enseigné aujourd'hui. Non, ils ont fait ça, ils ont passé par cette école disciplinaire, formation, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre. Les yeux avaient été ouverts. Ils avaient reçu une foi divine. Ils savaient la fin. Ils savaient les conséquences de ce qu'ils traversaient. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ça, c'est une évidence de la réalité de notre foi. Il y a plein de foi qui n'est pas une foi salutaire. C'est une foi qui aime la religion, peut-être, qui aime certains aspects, qui aime avoir Jésus dans le coffre de la voiture au cas qu'il y a une panne dans ma vie. Mais ces gens sont rappelés, écoutez, je sais que vous souffrez, mais vous n'avez pas souffert jusqu'au sang. Aujourd'hui, le 19 février 2017, il y aura sans doute des gens qui vont souffrir jusqu'au sang. Ils vont regarder calmement la mort. Ils vont dire, n'aie pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais ne peut que tuer le corps. Craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans l'enfer. Il ne craignait que lui, et pas tremblant, mais joyeusement. Et ça, c'est ce que nous avons vu dans ce passage. Et cinquième verset, c'est que il y a quatre choses dans ce verset. Il y a une exhortation très importante, mais oubliée. Et à cause de ça, il y a un châtiment qui est méprisé. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement important, indispensable, formatif, éducatrice, rejetée, parce que j'en ai marre avec cette vie que Dieu demande de moi. Et même le chrétien est tenté de penser comme ça. Les non-chrétiens vont terminer par carrément abandonner ce chemin, même pendant un certain temps, ils ont pris le chemin, ils vont terminer par abandonner. Mais c'est une éducation qui est en risque, c'est une critique qui est dépréciée. Ça, c'est l'idée de reprendre. Écoutez, vous êtes en formation. Hier, quand j'étais en train de marcher à Cestas et de réfléchir, il y avait des gens qui passaient avec des vélos, des petits garçons, et puis une grande personne qui criait « Allez, allez, plus vite !» Et puis un grand frère qui formait, je crois, ses petits frères. Et ils étaient fatigués, ils regardaient, mais ils écoutaient. Ils voulaient apprendre mieux, faire leur vélo. Et Dieu dit, écoute, je vous place moi-même dans cette école. Moi, je choisis exactement, je suis dans la voiture avec vous qui va vers le ciel. Je sais exactement ce que vous en avez besoin. Je sais exactement quand vous êtes fatigué. Je sais exactement combien vous pouvez tenir et ne pas tenir. Et je sais que vous allez crier, je ne peux plus, je ne peux plus. Mais je sais que vous pouvez encore plus parce que je suis là avec vous. C'est moi qui vous donne la force. C'est moi qui ai un agenda. Et à moins que vous continuez, cet agenda va tomber dans l'eau. Le chrétien sait ça. Et non simplement est-ce qu'il accepte. Il accepte comme un sujet de choix. Il ne déprécie pas. Bien sûr qu'il y a des critiques, parce qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses qui ne veulent pas être pareilles. Et il y a des choses qui se manifestent rien que dans l'affliction. Il y a des choses qui se mettent... des gens qui ont été mis sur le vélo d'épreuve chez le médecin pour qu'ils puissent voir... Toutes les tests avant étaient très très bien, mais à un moment donné, je connais deux personnes ici à Bordeaux, qui grâce à cette épreuve un peu plus ardue, ils ont compris qu'il y avait un problème cardiaque très sérieux, qui n'a pas été démontré avant. Et heureusement, le problème a été traité, même opération cœur ouverte, Paulin, qui ne savait même pas qu'il y avait un problème, mais ça existait. Dieu nous reprend, il nous critique, il nous dit non, 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 pas comme ça, mais comme ça. Et il veut un étudiant enseignable dans cette école et cette école de souffrance. Comme nous avons chanté à plusieurs reprises ce matin, existe pour ça. Verset 6, car supporter le châtiment, endurer la correction, Dieu nous discipline, le Seigneur discipline, il discipline à cause d'amour, il est marqué, il frappe de la verge, qui? Pas tout le monde, pas les voisins, ses enfants, dans son foyer, ceux qui reconnaît comme fils. Le Seigneur forme, le Seigneur éduque celui qu'il aime. C'est vrai que Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a aucune personne qui n'est pas aimée. Mais il n'y a pas chaque personne qui va éduquer. Ils avaient décidé de ne pas être éduqués. Ils avaient fait un choix de suivre un autre chemin. Et à moins que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils voient et qu'ils veulent, ils ne vont pas vouloir changer. Mais il y a certaines personnes dans cette pièce que Dieu reconnaît comme ses fils. Et il dit, parce que vous êtes mon fils, je vous sanctifie, c'est-à-dire je vous mets à part, je vous place à côté, vous serez dans mon école et vous serez joyeusement en larmes, en tristesse. Vous allez pouvoir connaître les deux à la fois. Il n'y a que de chrétiens qui peuvent vraiment cette contradiction de termes, paraît-il, en pleine larmes et tristesse et difficulté, ils rayonnent quand même avec une espérance, avec une joie. Oh, ça ne se fait pas dans un jour. Il faut beaucoup de temps à travers le passage des épreuves et de difficultés. Et il est en train de parler des difficultés, pas simplement qui viennent d'une manière naturelle, et ça c'est une question qui m'a été posée après la semaine, le message dernièrement, et on en parlera, mais ici c'était la hostilité confrontationnelle contre les gens qui détestent Dieu. C'est intéressant, je suis en train de réfléchir, même hier, Jésus, il a vécu 33 ans ici. Il n'a jamais... On n'est jamais qu'il est tombé par terre parce qu'il était avec ses parents. Il y a tous les enfants qui doivent plus tard, comme mon petit enfant la semaine dernière, il est tombé d'un arbre, pensait qu'il était mort. Bon, il n'était même pas mal. Mais pendant un instant, il pleure, il criait. Est-ce que Jésus a pleuré? Si. Si. Il était humain. Est-ce qu'il était malade? Il n'est pas marqué. Je ne sais pas s'il est tombé d'un arbre. Je sais qu'il était un enfant normal. On constatait qu'il y avait quelque chose de différent au fur et à mesure. Il était très intelligent. Mais il était un enfant normal. Est-ce qu'il était fatigué? Ah oui, ça, on sait. À côté de l'appui de cette femme de Samarie, Jésus disait, je ne peux plus, allez-y jusqu'à Samarie, achetez des choses à manger, mais moi je suis trop fatigué. Et les disciples sont partis pour acheter des choses. Donc on sait qu'il était fatigué. Mais à part ça, on voit rarement que Jésus a souffert les maladies et les différentes choses que nous. Mais il était confronté journellement avec une hostilité des gens qui prévoyaient sa destruction, qui cherchaient de leur mieux de le trouver dans une situation où il risquait de dire quelque chose. Ah ah! Il est attrapé. On peut le mettre à l'exécution. Jésus était confronté avec une hostilité des personnes tous les jours jusqu'à la mort. Il discipline à cause d'amour. Il frappe de la verge. Aïe! Ça fait mal! mais il fait ça parce que il aime son fils, ses fils. Donc, comment endurer cette correction? Comme un fils en formation, ce qui était marqué, supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Parce que quel est le fils? Quel est le fils? C'est une question rhétorique dans la réponse. C'est dedans. Une question rhétorique force que vous répondiez. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et la réponse dans la question est: mais non, aucun père de bien ne fera pas éviter de châtier, de instruire. Et j'ai mis tous ces mots. Ça, c'est le mot que nous avons en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Chaque écriture est inspirée par Dieu et utile pour notre instruction. Le même mot qui est utilisé dans le texte, traduit châtier. Verset 8. Imaginez étant exempt de châtiment. Dieu, que tu me fasses exempt de châtiment. Attention, chers amis, et je me mets dans la première place qui a besoin de cette exhortation. Mais à chaque fois que je me plaigne, à chaque fois que je cherche le pitié des autres parce que, oh, moi je souffre trop, à chaque fois que je fais ça, je suis en train de voler flagrement, de confronter le chef de ma foi, le consommateur de ma foi, celui qui a proposé et a mis l'unique épreuve nécessaire pour ma maladie. Et j'ai du mal, et vous avez du mal, mais imaginez être exempt de vivre dans un Disney World où tous les jours on fait des plaisirs. On n'est jamais fatigué. Un enfant comme ça est un enfant illégitime. Il n'est pas fils. Il y a des gens qui s'appellent fils. Ils ne le sont pas. Mais Robert, tu dis qu'il souffre. Ah oui, tout le monde souffre. Il n'y a aucune personne sur la planète qui n'a pas une forme ou l'autre de souffrance. La souffrance arrive à tout le monde. Mais pas une souffrance spécialisée. La souffrance du chrétien est une souffrance spécialisée, conçue chez le médecin qui fait les opérations, chez lui qui a déterminé que ça soit comme ça, comme j'ai dit il y a deux semaines. C'est pas comme le chirurgien dans le salle d'urgence qui prend quelqu'un qui est. Il y a une grande coupure et son but c'est de regarder la coupure, de saisir l'occasion, d'arrêter le sang qui coule et de réparer. Dieu n'est pas ici pour réparer. Et il nous appelle dans son école pour qu'il étudie notre cas. Non, Dieu n'a pas besoin de s'étudier, il sait tout. Mais juste pour utiliser métaphorique cette illustration de chirurgien, pour regarder tous les examens du sang, tous les radios, pour dire son problème est ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, je connais bien ce problème avec ça, Dieu n'a pas besoin de faire ça. Il sait déjà. Et votre problème est unique, parce que chaque chrétien a un arrière-plan différent que l'autre. Et il choisit la chose, pas une chose. Rien n'est au hasard. Oh, chers amis, si nous pouvons apprendre la souveraineté de Dieu, rien n'est au hasard. On dit ça souvent. Parce qu'on est au moins théoriquement convaincu de ça. Mais physiquement, on découvre qu'il y a beaucoup d'athéisme au fond de nos cœurs en tant que chrétiennes. Et voilà la chose que Dieu est en train de nous débarrasser de toutes ces traces d'athéisme et incrédulité et murmure. Et il est en train de me faire ça à 70 ans. Il est en train de vous faire ça à 30 ans. Et il ne va pas arrêter. Il va aller jusqu'au bout parce qu'il t'aime temps. Et ça, c'est l'enseignement, pas simplement ici. Mais vous pouvez vous appeler fils, mais si vous êtes exempt de châtiment, vous êtes illégitime, logique. Dans verset 9, je vous garde plutôt ici et pas... D'ailleurs, nos pères dans la chair, nous avons une comparaison entre le Père céleste et le Père terrestre. Dans verset 9, les pères terrestres, ils nous ont châtiés. Nous avons accepté. Mal, mais c'est mon père. Il est comme ça. Il était capricieux parfois, il était en colère parfois, il était indulgente parfois, il n'aurait pas dû être, et il n'est pas constant. Mais on accepte. Et on attend que nos enfants acceptent. Combien plus, donc, devrions-nous soumettre à notre Père céleste, qui a choisi rien que pour notre bien, rien pour enlever toute trace de cancer, pour que nous soyons en parfaite forme, ou pas aujourd'hui, on a déjà entendu ça, mais un jour, on est en train d'être sanctifié. Rappelez-vous, Christ a souffert pour que nous soyons justifiés. Notre souffrance est liée à notre sanctification. Donc, combien plus devrions-nous soumettre à cette formation indispensable? Et verset 10, nos pères terrestres ont voulu nous améliorer. Ils ont justifié ce qu'ils ont fait. Peut-être maman a dit, papa, je crois que tu étais trop sévère. Et peut-être il était trop sévère. Il était trop sévère parce qu'il était fâché. Et quand il est fâché, il est fou. La colère et la folie sont liées. Et quand on est en colère, on perd un peu au moins la raison. Et après, on regrette des choses qui sont faites en passion de colère. Dieu n'a jamais châtié, corrigé, instruit, repris, reproché un de ses enfants en colère. Jamais une seule fois. Avec amour tellement tendre, il a corrigé. Combien plus? Parce que là, pour notre amélioration, pour qu'on sache gagner la vie mieux après que nous quittions la maison. Avez-vous jamais constaté le fait qu'en tant qu'enfant, vous passez un quart de votre vie sous couvert de l'autorité de vos parents? Un quart de votre vie, si vous habitez jusqu'à 100 ans, 25 ans, il y a des gens de 25 qui sont toujours chez parents. Normalement, avant, ils quittent, mais 20 ans, 80 ans, disons. Un animal, quelques semaines, au maximum 2 ou 3 mois, mais apprenant de se soumettre aux autorités, saines et saufs, dans le foyer, avant de sortir dans le monde où des autorités, chacun vivent pour soi, qui ne vont pas discipliner comme un père. Chacun pour soi, et vous devez vous débrouiller avec la formation que vous avez reçue, qui est ou une merveilleuse aide ou peut-être un handicap. En tant que chrétien, Dieu va être avec cette personne et il va vous discipliner, former, suivant votre arrière-plan. Il sait tout et il décide tout et il conçoit le meilleur traitement, dont vous en avez besoin, parce qu'il vise votre sainteté. Oh, c'est une chose qui nous dépasse. Notre façon de saisir ce que c'est la sainteté. Et puis le dernier verset que nous avons vu, aucun châtiment n'est plaisant. Chaque châtiment attriste, mais plus tard, ça nous réjouit. des gens sportifs ici. Peut-être vous avez gagné des médailles parce que vous avez soumis à une formation qui vous a fait en colère contre votre entraîneur, peut-être. Mais vous êtes quand même resté avec lui parce que vous savez, c'est lui qui sait produire une médaille olympique. Et vous êtes resté jusqu'à ce que vous avez quitté, parce que je ne crois pas qu'il y a aucun teneur de médaille olympique parmi nous. Peut-être je me trompe. Mais normalement, notre vie médiocre existe parce qu'on refuse de se soumettre aux disciplines qui peuvent nous faire aller plus en avance, et surtout avec le Seigneur. C'est une discipline qui mène comme fruit deux choses. Et nous avons chanté de ces deux choses ce matin. Paix et justice. Et puis, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ça, c'est une citation directe qui vient de Ésaïe, chapitre 35, verset 3. J'aimerais juste dire quelques versets dans ce passage. Ésaïe chapitre 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Parce que souvent, on éprouve, on a le cœur troublé, n'est-ce pas? On ne peut pas se séparer le psychique du physique. Ils vont ensemble. On va dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, votre Dieu, la vengeance rendra. L'apôtre met en contexte ce Jésus confronté par une hostilité impossible toute sa vie. Les peuples de Dieu sont souvent confrontés par l'hostilité. Mais la rétribution est de Dieu. Tout ça, Ésaïe 35, et les versets qui suivent sont merveilleux aussi. Donc, fortifiez-vous. Mains, genoux, mains, ce avec quoi nous faisons des choses, genoux, la force pour que nous restons debout, les pieds, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Savez-vous qu'il y a des gens qui vous regardent? Ils regardent surtout quand vous traversez des épreuves. Quand tout va bien et vous faites la fête ensemble, vous êtes des bons copains, quand rien ne va bien ou quelque chose de terrible arrive, ces amis, souvent, ils se reculent, ils ne font que observer silencieusement. Et si vous êtes une des personnes que des gens regardent comme un exemple, comment vivre, comment faire la fête, comment... Ah oui, il est éprouvé, je regarde parce que... Oh là là, j'ai passé les épreuves et moi, j'étais écrasé. Je ne répondais pas du tout, mais je vais le regarder. Et il vous scrute. Il passe en plus grand vos réactions. Il critique, il juge. Ils ne font pas exprès pour être négatifs, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils cherchent un point de repère. Ils cherchent une manière de savoir comment faut-il que je fasse face à mes choses. Savez-vous qu'il y a des adolescents qui se suicident en grand nombre aujourd'hui en France et dans les pays de l'Ouest? Pas d'exemple. Pas de point de repère. Ils regardent leurs parents qui s'écroulent quand il arrive le moindre des preuves, qui dit des gros mots, qui dit si Dieu existe, pourquoi il est comme ça? Je sais que Dieu existe, mais il est trop dur sur moi. Mes parents sont la dernière autorité en qui je me confie. Si eux, ils n'ont pas d'espoir, si eux, ils ne peuvent pas sentir une paix qui prenne le devant malgré leur détresse, eh bien, moi, petit, craintif, timide, facilement intimidé par des peurs, à quoi ça sert de continuer la vie? Il y a plein de gens, pour différentes raisons, peut-être, qui terminent comme ça. Donc, nos pieds, Proverbe chapitre 4, 26 et 4, 27, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal pour toi, mais aussi pour ceux qui regardent vers toi, pour que tu le montres. Le moment plus critique, comment tu fais la fête ne leur intéresse plus quand ils sont en peine. Mais comment tu fasses et traces la route devant toi quand tout est impossible. Et ils savent que le mur devant toi n'est pas pour toi le dernier mur. Tu vis au-dessus et tu vois Jésus et tu vois les témoins qui disent « Allez, allez, allez !» Les choses ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ça, c'est sûr. Allez, si le mur est à confronter, confrontez le mur par la grâce du Seigneur et dans son esprit. Et que vos pieds trouvent la bonne voie. Verset 13. Et puis, verset 4, recherchez la paix. On a chanté sur deux paix. Recherchez la paix. Pourquoi dans un tel contexte, en hébreu, est-ce qu'il parle de ça? En pleine tribulation, en pleine souffrance, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, tous les deux, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Beaucoup de vous, vous comprenez aussi bien l'enseignement biblique sur le salut pour comprendre on est sauvé une fois pour toutes. Mais une bonne partie de notre salut est futur, non pas encore actualisé. Vous avez reçu l'héritage de votre oncle de 1 million. Vous avez le droit de toucher 50 000. Mais avant d'avoir 25 ans, vous ne pouvez pas toucher le reste. Mais il est là. Et il porte de l'intérêt. Il est là. Vous êtes millionnaire. Mais vous n'êtes pas arrivé là où vous touchez la totalité de votre salut pour revenir à notre passage. Notre salut est passé, justifié par la foi, sauvé de nos péchés, sauvé de l'enfer, en train de saisir le salut que nous avons reçu et changer, être sanctifié en vue de être débarrassé de cette école de formation. Il n'y aura plus de formation au ciel. Il n'y aura plus d'éducation, il n'y aura plus de discipline, il n'y aura plus de châtiment, il n'y aura plus de souffrance. Mais pour l'instant, il faut. Et ceux qui cherchent aller à une réunion de délivrance parce qu'ils refusent de supporter le châtiment sortent de la main de secours de Dieu à leur propre destruction éternelle, comme Ésaü qui va être vu. Donc, que chantaient les anges quand Jésus est né? Deux choses. Et deux choses contient la totalité de l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On existe pour la gloire de Dieu. Paix aux hommes. La plupart des gens ne connaissent pas du tout cette paix. Le chrétien le connaît. Un chrétien, devant des difficultés, des épreuves, où il n'y a pas de sortie à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Mais les yeux de la foi regardent ce que les autres ne voient pas. Et la paix du cœur n'est pas cachable pour des autres personnes. C'est comme ça. C'est comme ça, il m'efface. Il n'a pas crié, il n'a pas couru à une réunion de délivrance pour avoir un démon exorcé de son corps. Parce que si vous souffrez, vous n'avez pas la foi. Un enseignement, excusez-moi, je dis doucement, diabolique, qui ne vient pas de la Bible. Dieu dit, ses enfants souffrent. Dans un sens, ils risquent de souffrir plus que les autres parce que leur souffrance est taillée et le péché incrusté est très incrusté. Combien c'est merveilleux. J'avais expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie. Oh, j'aurais voulu dire mille fois. Quand j'ai permis que le Seigneur me donne sa paix, que j'accepte et en sorte entrer dans l'épreuve et sortir de l'autre côté, comme dit 1 Corinthiens 10, 13. J'ai pu constater la libération que j'ai trouvée ici par rapport à mon esclavage à Robert. Votre plus grand ennemi, c'est le vous, le toi, le vous. Et Dieu a envoyé son Fils pour me délivrer de cet état infernable de égocentrisme, de centre de l'univers, moi. Pour maintenant glorifier Dieu avec la paix dans son cœur, malgré les apparences à l'extérieur. 1 Thessaloniciens 3, 4, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut votre sanctification. Il veut ça, chrétien. Il vous a laissé ici pour souffrir sous la protection et contrôle d'un Pierre plein de tendresse et d'amour au-dessus de tout autre Père. Il veut votre sanctification. Veillez. C'est un verset solennel comme les deux qui suivent. Veillez, Robert, à ce que nul, à ce que toi, Robert, et peut-être d'autres personnes que tu risques d'influencer, qu'ils ne se privent de la grâce de Dieu, qu'à travers des épreuves, ils sortent des racines d'amertume, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs soient infectés. C'est très très sérieux cette question des épreuves. Et Dieu dit, tu ne peux pas, mais je peux et je vous sauve pour que vous puissiez venez à moi et reposer dans vos épreuves. Ce n'est pas une contradiction du terme. Notre acceptation en pleine épreuve est une démonstration. Est-ce que nous sommes légitimes ou pas légitimes? Parfois il est clair, parfois on dit, Seigneur, comment je pourrais agir de la sorte en tant qu'enfant de toi? Viens au secours de ma foi, parce que j'ai agi comme un païen qui ne croit pas en Dieu. Oh, permets que je n'infecte pas mes enfants, que je n'infecte pas d'autres personnes dans l'église ou au travail. Très rempli de choses. Et verset 16, on n'est pas loin. Veillez, parce que ça continue, ce qu'il faut veiller. Veillez qu'il n'y ait pas impudiques comme Ésaü, veillez qu'il n'y ait pas de profanes comme Ésaü, veillez qu'il n'y ait pas ceux qui met vendre son droit d'aînesse. Ésaü n'est pas dans cette liste. En chapitre 11, son frère Isaac est là. Ésaü a vendu pour un boule de cornflakes. Immédiate, son droit d'aînesse. Et nous lisons que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il a été rejeté. Père, papa, Isaac, s'il te plaît, donne-moi ma bénédiction. Non, c'est trop tard. Ta bénédiction a été donnée à ton frère. Tu ne peux pas aller en arrière. Il n'y a aucun péché, je dis tout de suite après ça, qui est repenti, qui ne peut pas être pardonné. Quel est le péché impardonnable? Attention. Le péché impardonnable, c'est le péché qu'on refuse de croire, accepter et se repentir. Il n'y a aucun péché qui, repenti et abandonné, n'est pas pardonné. Aucun péché. Tout péché est pardonné s'il est repenti. Ésaü ne pouvait même pas venir à la repentance. Il avait une tristesse du monde parce qu'il perdait des biens matériels, mais il n'avait aucune repentance envers Dieu et envers le sens de ce que signifiait ce droit de aînesse. C'est vraiment solennel, n'est-ce pas? En effet, la tristesse, 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance au salut dont on ne se repent pas, tandis que la tristesse du monde produit le mort. Tout le monde souffre, chrétien et pas chrétien. Les non-chrétiens souffrent autre. Ils souffrent à cause de l'inconvénience, à cause de la douleur. Leur raison d'être en pleine souffrance, c'est d'éliminer la souffrance. Rien ne compte sur ça. Le chrétien a la sagesse, né dans la parole de Dieu, et né dans le baignoire de l'expérience, que Dieu va traverser cette souffrance avec moi. Je vais sortir victoire, joyeux, sans perdre ma paix. Termine avec 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, dans la bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Il ne dit pas qu'il enlève nos afflictions, non, non. Il nous console dans. Les évangélistes de la prospérité ne répètent jamais ce verset, et mille et cent d'autres. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction inévitable, mais plus qu'inévitable, choisie par Dieu pour notre bien, même jusqu'aux larmes, parfois, mais pas les larmes de rébellion, pas les larmes de mécontentement, les larmes de douleur, mais qui n'annulent pas la paix et la joie. La joie sérieuse, attention, la joie sérieuse. Il y a des gens qui disent, on ne vient pas à cette église parce qu'il n'y a pas de joie. Il y a une joie très sérieuse. Une joie que Jésus avait. Jésus dit, je vous donne ma joie et ma paix. Mais on n'a jamais vu que Jésus dansait. On n'a jamais vu que Jésus même souriait. On n'a jamais vu qu'il a lancé une blague, qu'il a rigolé. Peut-être qu'il l'a fait. Mais l'évangile n'est pas là pour nous montrer ça. Mais la joie sérieuse qui puisse pénétrer les joies superficielles de ce monde, même adaptées dans beaucoup d'églises, et une joie qui est éphémère, temporaire, illusoire, délusionnelle, produit d'une drogue, une idée qui est à côté de la plaque, mais plantée par l'ennemi du vrai, de la vraie joie. Prenez la parole de Dieu. Scrutez la parole de Dieu. Commencez chaque journée avec Dieu. Apprenez comment Jésus vivait dans les évangiles. Devenez quelqu'un qui peut répondre à chaque expérience dans sa vie avec la mentalité saine, correcte et victorieuse de la joie qui pénètre toute les mirages dans le monde religieux aujourd'hui et qui connaît Jésus, qui marche avec eux dans chaque tribulation. Consolation, c'est un mot qui veut dire secours, aide, pas simplement émotionnellement taper quelqu'un pour dire je pleure avec toi. Il faut ça. C'est un mot plus grand que ça. Ça inclut ça, ça va beaucoup plus loin. Qui vient à côté. C'est le mot d'où vient le mot paraclète. Le Saint-Esprit est notre paraclète. Celui qui vient à côté de nous pour nous aider, nous supporter. Je boite, mais il est mon béquille. Il n'est pas mon béquille, c'est pas bon.